VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du vendredi 8 février 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Côte d'Ivoire, journée décisive ce vendredi pour le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro.
Arrivé hier à Dakar de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, très peu d'écho à son appel contre la tenue de la présidentielle du 24 février.
Au Burkina Faso, une nouvelle attaque, la troisième cette semaine, a coûté la vie hier à deux civils dans le nord.
Washington met un terme à plusieurs programmes d'aide militaire et sécuritaire au Cameroun.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, devrait rendre sa démission ce vendredi lors d'une session extraordinaire de cette Assemblée. D'Abidjan, notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara fait le point.
Ce vendredi 8 février sera sans doute le dernier jour de Guillaume Soro à la tête du Parlement ivoirien. Selon des sources jointes par VOA Afrique, Soro devrait rendre le tablier comme l'avait annoncé il y a quelques jours le président Alassane Ouattara. Un départ forcé qui crée la polémique dans le pays et qui amène de nombreux Ivoiriens à s'interroger sur la séparation des pouvoirs. Depuis des semaines, le chef du Parlement ivoirien fait face aux pressions émanant de la coalition au pouvoir qui le pousse à la démission en raison de son refus d'adhérer au parti unifié mis en place le 26 janvier dernier. Son départ devrait être annoncé au cours de la session de ce vendredi. Selon nos sources, il devrait s'atteler dans les jours qui viennent à la mise sur pied d'un parti politique en prélude à sa candidature à la présidentielle de 2020. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
L'ex-président Abdoulaye Wade est arrivé hier au Sénégal. Son appel à empêcher la tenue de l'élection présidentielle du 24 février a eu très peu d'écho au sein de la population et parmi la classe politique. Le point avec Bagassi Koura.
L'ancien chef de l'État qui réside en France est arrivé dans l'après-midi. Dans une vidéo diffusée mardi, il avait appelé la population à s'opposer à la tenue d'une élection fabriquée, dénonçant l'invalidation des candidatures de son fils Karim et de Khalifa Sall, maire de Chu de Dakar, tous les deux frappés par des condamnations judiciaires. Parmi la poignée de militants venus l'attendre à l'aéroport, certains affirmaient qu'il va devoir changer de discours. Un de ses alliés, le député Mamadou Diop Décroy, a d'ailleurs annoncé son ralliement au candidat Idrissa Seck. Le président sortant, Macky Sall en campagne comme les quatre autres candidats, ignore royalement Abdoulaye Wade à assurer son service de presse. La société civile lui a donné une fin de non-recevoir. Fadel Barrow du mouvement Yanamar estime qu'un boycott va favoriser le parti au pouvoir et appelle les Sénégalais à se rendre massivement aux urnes. Wade seul contre tous ou maître Wade récalé ont titré les quotidiens constatant l'échec de l'ancien président 92 ans à rallier les Sénégalais à sa cause.
Au Burkina Faso, deux civils ont été tués hier dans une attaque terroriste contre une brigade de gendarmerie à Kongoussi, dans le nord, a annoncé l'état-major général des armées dans un communiqué. Cette nouvelle attaque, la troisième de la semaine, survient deux jours après le sommet du G5 Sahel à Ouagadougou, où les chefs d'État de ce groupe avaient plaidé pour une aide accrue des Nations Unies en vue de lutter contre les groupes djihadistes. Les attaques de ces derniers ont fait depuis 2015 plus de 300 morts au Burkina.
En France, la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat veut entendre la ministre de la Défense Florence Parly sur les frappes françaises au Tchad, Abdourahmane Dia.
Le président de la Commission, Christian Cambon, sénateur républicain de droite, a demandé à la ministre des Armées de venir en audition pour faire le point sur l'évolution de la situation. Des avions de combat français ont frappé dans le nord-est du Tchad une colonne de pick-up lourdement armée venue de Libye, contre laquelle Français et Tchadiens sont déjà intervenus le week-end dernier. Le raid de cette colonne armée dans la profondeur du territoire tchadien était de nature à déstabiliser ce pays, avait estimé mercredi l'état-major français. Le convoi visé était composé de membres de l'Union des forces de la résistance. Ce groupe armé était à l'origine d'une tentative de putsch en 2008, freinée aux portes du palais présidentiel de N'Djamena grâce à l'appui de l'armée française. Deux chefs de partis d'opposition tchadiens ont critiqué l'intervention française, la qualifiant d'inappropriée et de violation du droit international. Depuis son arrivée au pouvoir en 1990 avec l'aide de Paris, le président Idriss Déby Itno a toujours pu compter sur la France qui a installé à N'Djamena le QG de sa force anti-djihadiste Barkhane.
Les États-Unis ont mis un terme à plusieurs programmes d'aide militaire et sécuritaire au Cameroun. Washington évoque des accusations de graves violations des droits de l'homme de la part des forces de l'ordre camerounaises. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
Après examen attentif de notre relation de sécurité avec le Cameroun, le gouvernement américain a mis fin à certaines de nos coopérations, a déclaré hier un responsable du département d'État. Washington ne prend pas ses mesures à la légère et pourrait, s'il le faut, diminuer davantage l'aide à la lumière de l'évolution de la situation, a-t-il indiqué. Les programmes arrêtés concernent la formation et les pièces détachées pour les avions de transport militaire américain C-130 appartenant à la flotte camerounaise, la livraison de 4 bateaux de patrouille, de 9 véhicules blindés et d'un système radar. Les États-Unis retirent aussi la proposition faite à Yaoundé d'être candidat à un programme américain de formation de ses forces de défense. L'aide supprimée représente un montant de plus de 17 millions de dollars selon une chaîne de télévision américaine. Selon la diplomatie américaine, il est dans l'intérêt du Cameroun de faire preuve de transparence dans les investigations sur des accusations de graves violations des droits humains de la part des forces de l'ordre, notamment dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. Une quinzaine d'ONG ont demandé hier à l'ONU d'enquêter sur d'éventuelles violations graves des droits de l'homme dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Ouest secoué par un conflit armé.
Les craintes selon lesquelles Washington serait en train de perdre de plus en plus d'influence à travers le monde commencent à se manifester en Afrique, où, selon un haut responsable militaire, la Russie joue sur les perceptions de faiblesse américaine pour gagner de l'influence et des ressources. Jean-Roger Bion.
Oui, les percées les plus alarmantes seraient dans des pays africains où les leaders cherchent à consolider leur pouvoir, a dit hier le chef du commandement américain en Afrique, le général Thomas Waldhauser. Déposant devant la commission sénatoriale des forces armées, il a dit que la Russie cible des régions qui pourraient lui donner un avantage sur les alliés des États-Unis. Le général Waldhauser a parlé entre autres de l'Afrique du Nord, la Libye en particulier, aussi la République centrafricaine, où la firme militaire russe Wagner a stationné 175 mercenaires. Ces individus sont en fait dans le cabinet du président et influent sur l'entraînement, a dit encore le patron de l'Africom, qui a également souligné que Moscou a envoyé 400 instructeurs ainsi que des armes pour aider à entraîner en septembre 2018 1000 soldats.
En Afrique du Sud, les élections législatives ont été fixées au 8 mai. Le président Cyril Ramaphosa l'a annoncé hier pendant son discours annuel à la Nation. Eric Manirakidza.
J'ai l'intention de proclamer le 8 mai 2019, date des élections législatives et des assemblées provinciales, a déclaré le président sud-africain sous les applaudissements du Parlement réuni au Cap. Les députés qui seront élus nommeront dans la foulée le président de la nation arc-en-ciel au suffrage universel indirect. En cas de victoire de l'ANC, Cyril Ramaphosa, 66 ans, est assuré d'être reconduit pour 5 ans à la tête du pays. Selon de récents sondages, l'ANC, le parti au pouvoir depuis la fin du régime d'apartheid en 1994, est donné largement favori avec près de 60% des suffrages. L'opposition au sein de l'Alliance démocratique pourrait faire un score honorable après avoir conquis les mairies de plusieurs grandes villes. Victime des scandales de corruption à répétition et de mauvais résultats économiques, l'ANC a vu sa popularité baisser ces dernières années. L'arrivée il y a un an de Cyril Ramaphosa à la tête du pays, succédant à Jacob Zuma, semble avoir enrayé la chute du parti de Nelson Madiba Mandela.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les premiers camions d'aide humanitaire américaine destinés au Venezuela, mais refusés par le président Nicolas Maduro, sont arrivés à la frontière entre la Colombie et le Venezuela, tandis que les pays du groupe de contact international ont appelé à une élection présidentielle libre. Cette aide intervient en réponse à l'appel à l'aide du chef du Parlement, l'opposant Juan Guaido, qui s'est autoproclamé le 23 janvier président par intérim du Venezuela. M. Guaido est reconnu comme tel par une quarantaine de pays, dont les États-Unis.
Des révélations embarrassantes pour Riyad ont relancé hier le débat sur le rôle du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, au moment où le président Donald Trump est de nouveau sommé par le Congrès américain de désigner et punir les responsables. Selon le New York Times, le jeune et puissant dirigeant du royaume avait dit en 2017 à un proche conseiller, Turki al-Dakhil, qu'il utiliserait une balle contre le journaliste saoudien s'il ne rentrait pas en Arabie saoudite et ne mettait pas en sourdine ses critiques à l'égard du régime.
Le PDG et fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, accuse l'hebdomadaire Scandal National Enquirer de l'avoir menacé de publier des photos intimes s'il ne renonçait pas à enquêter sur la manière dont le titre s'est procuré des informations sur sa liaison extra-conjugale. Tout a commencé avec la publication fin janvier par le magazine de textos passionnés échangés entre Jeff Bezos et une amie au printemps 2018, soit plus de 6 mois avant l'annonce de la séparation de l'homme le plus riche du monde avec son épouse Mackenzie.
Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Côte d'Ivoire a récolté 761 317 tonnes de noix de cajou en 2018. Ce volume marque une hausse de 6,7% par rapport à 2017. Selon Ecofin, il dépasse aussi l'objectif de 75 000 tonnes fixé en début de campagne. Toutefois, cette performance de l'appareil de production n'a pas profité aux exploitants. En effet, sur fond d'une conjoncture mondiale dégradée et de difficultés de commercialisation de la noix de cajou, les producteurs n'ont encaissé que 404 milliards de francs CFA en 2018 contre 509 milliards en 2017. Total a annoncé que son premier champ pétrolier en Ouganda sera une priorité cette année après que des revers aient retardé la décision finale d'investissement en 2018. Le retard était dû en raison de désaccords sur la stratégie de développement sur le terrain, de litiges fiscaux et d'un manque d'infrastructures telles qu'une raffinerie ou un pipeline d'exportation. La production de ce projet que Total va développer avec la Chine est estimée à 230 000 barils par jour et devrait commencer en 2021. Pour finir, le groupe hôtelier Radisson envisage d'exploiter 130 hôtels en Afrique d'ici 2022 contre 50 aujourd'hui. Cette année, Radisson veut notamment ouvrir 5 autres hôtels en Algérie, à Conakry en Guinée, à Niamey au Niger et à Nairobi au Kenya.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Journée décisive aujourd'hui à la CAN des moins de 20 ans.
Oui, après une victoire face au Burundi et un match nul face à l'Afrique du Sud, le Nigeria doit éviter une défaite devant le Niger, pays hôte, pour valider son billet pour les demi-finales et en même temps pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Les deux équipes s'affrontent à partir de 15h30 temps universel. Dans ce même groupe A, le Burundi croit toujours à une qualification. Avec un point pris en 2 matchs, les Burundais pensent cravacher dur pour arracher une place pour les demi-finales. Malgré leur dernière place derrière l'Afrique du Sud, 2 points, le Niger, 2 points également, et le Nigeria, 4 points.
Aristide Bansé rentre au pays.
Oui, attendu au club guinéen de Oroya, l'international burkinabé a finalement décidé de rentrer au pays, libre après avoir résilié son contrat avec Al Masry en Égypte. L'attaquant de 34 ans s'est engagé pour 6 mois en faveur de l'Union sportive des forces armées USFA. Aristide Bansé espère ainsi retrouver du temps de jeu en vue de la CAN 2019. Il doit être présenté à son nouveau public aujourd'hui.
Alexander Čeferin réélu.
Et oui, le Slovène a été réélu président de l'UEFA lors du congrès de la Confédération européenne de football organisé à Rome. Alexander Čeferin, 51 ans, avait été élu en septembre 2016 en remplacement de Michel Platini, suspendu de toute activité liée au football. Seul candidat en lice, il a été réélu par acclamation. On fera tout notre possible pour avoir le mondial 2030 sur notre continent. 12 ans après le grand succès qu'a été la Coupe du Monde en Russie, a-t-il déclaré.
Le fondateur du Ballon d'Or est décédé.
Oui, figure du journal L'Équipe et du magazine France Football et fondateur de la Coupe d'Europe de football et du Ballon d'Or, Jacques Ferrand, est décédé à l'âge de 98 ans. Il a notamment fait partie de la petite équipe qui a créé en 1955 la Coupe d'Europe devenue aujourd'hui la Ligue des Champions. En 1956, il fut aussi à l'origine de la création du Ballon d'Or France Football, récompensant alors le meilleur joueur européen. On finit avec du basketball, avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Indiana et les Clippers 116 à 92, Orlando et Minnesota 122 à 112, Toronto et Atlanta 119 à 101, LA Lakers et Boston 129 à 118, Oklahoma City et Memphis 117 à 95.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sidoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Sénégal, suite de la présentation des candidats à la présidentielle du 24 février, ce matin, Idrissa Seck. Ministre, ministre d'État, Premier ministre et aujourd'hui aspirant à la magistrature suprême, Idrissa Seck est le candidat de l'opposition le plus expérimenté. Il est aussi le challenger le plus dangereux pour le président Macky Sall. Fort de son expérience, il brigue la présidence sénégalaise pour la troisième fois après ses échecs de 2007 et 2012. Son portrait avec Sédina Abagay, notre correspondant à Dakar.
Idrissa Seck a eu une riche carrière politique. Né en 1959, il est le directeur de campagne du candidat Abdoulaye Wade à la présidentielle de 1988, puis ministre du Commerce dans le gouvernement d'Union nationale en 1995. Cinq ans après, il est de nouveau directeur de campagne du candidat Abdoulaye Wade qui est élu pour un mandat de 7 ans en 2000. Idrissa Seck est alors au cœur du régime libéral, ministre d'État, directeur de cabinet du président, puis premier ministre en novembre 2002. Il se fait l'avocat de la bonne gouvernance. Les résultats sont au rendez-vous avec des taux de croissance record de 6,68% en 2003 et 5,87% en 2004. Mais ses relations avec le président Wade se gâtent de manière spectaculaire. Il est accusé de vouloir succéder à son père spirituel. Certains parlent de coup d'état rampant. Le président Wade l'accuse même d'avoir fouillé son bulletin de santé. Malgré ses dénégations, il est limogé le 21 avril 2004.
Ils m'ont sali, ils ont raconté n'importe quoi, ils ont fait une propagande monstrueuse contre moi.
C'est la disgrâce qui ne s'arrête pas là. Idrissa Seck est accusé d'avoir détourné des sommes folles dans l'affaire dite des chantier de Thiès. Il est arrêté le 23 juillet 2005. La majorité parlementaire vote sa mise en accusation devant la Haute Cour de justice pour détournement de fonds, corruption, faux et usage de faux, atteinte à la défense nationale et à la sûreté de l'État. Après plus de 6 mois à la prison de Rebos, il bénéficie d'un non-lieu. Il est libéré. Selon lui, ces moments sont les plus douloureux de sa carrière politique.
J'ai encore le souvenir frais de ma fille qui n'avait même pas 5 ans, 6 ans, qui est venue s'enlacer contre moi en me disant qu'est-ce qui se passe, papa.
Rester en prison et en sortir avec un non-lieu, ça lui a valu la sympathie de beaucoup de Sénégalais qui ont perçu sa détention comme injuste et arbitraire. Alors, il essaie de rebondir et va se présenter à la présidentielle de 2007 face à son mentor, Abdoulaye Wade, qui rempile pour un second mandat. Peu avant ces élections, le président Wade reçoit son fils spirituel au palais et va annoncer devant les caméras que Idrissa Seck va revenir à la maison. Les conséquences sont retentissantes. Abdoulaye Wade passe au premier tour et Idrissa Seck termine deuxième avec un peu plus de 14% des voix. Ce sera son meilleur score. En 2012, il n'a que 7% des suffrages, bien loin derrière le président élu Macky Sall. La relation entre les deux hommes restera plus que tendue. Macky Sall, le président sortant, est un ancien membre du PDS de l'ancien président Abdoulaye Wade. Lui et Idrissa Seck sont issus du même parti. Le président Sall a été premier ministre et président de l'Assemblée nationale. C'est donc un choc d'ambition, une dualité non avouée. Pour l'observateur politique Ibrahima Bahoum, Idrissa Seck est l'adversaire le plus dangereux du président sortant.
D'abord, il a pris le temps de construire son réseau. Et depuis lors, non seulement il pose des accusations solides, mais en plus, il a beaucoup de gens qui sont allés avec lui, parmi les candidats qui avaient recalé par le parrainage. Jusqu'ici, on pense qu'il est très très fort, très positionné dans l'opinion. Et oui, avec tout ce qu'il a comme coalition, s'il fait une bonne campagne, il peut faire très mal.
Idrissa Seck, bien avant l'an 2000, avait écrit sur son site idrissa.com qu'il sera le troisième président du Sénégal après Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf. Il a déjà fait 2 tentatives et peut-être est en train de jouer la carte de la dernière chance. Mais en politique, comme le dit l'adage, on ne sait jamais de quoi demain sera fait, mais on saura au soir du 24 février avec la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Comme prévu, le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé hier en fin d'après-midi à Brazzaville, où il a été accueilli par son homologue Denis Sassou Nguesso. Les deux hommes ont ensuite eu un tête-à-tête dans la soirée sur les questions de coopération bilatérale. Reportage d'Arsène Sévrin, notre correspondant à Brazzaville.
Malgré le soleil accablant et une sécurité renforcée autour des installations aéroportuaires, un demi-millier de personnes ont pu s'amasser au pavillon présidentiel de l'aéroport international Mayamaya de Brazzaville pour accueillir Félix Tshisekedi, le nouveau président de la RDC. Nombreux sont les ressortissants de la RDC qui sont venus manifester la joie à leur président.
Nous avons reçu le président Félix Tshisekedi Fati qui vient pour nous réconforter car on était impatients, on attendait ce mouvement. Et nous avons la foi que sa démarche, c'est celle-là. Parce qu'ici, c'est peut-être, c'est sûrement derrière la maison. Il est allé devant, il a tourné et puis il vient terminer derrière la maison. Donc, ça ne nous a pas déçus.
Les structures qui gouvernent ici, faisant partie du pays, il doit y avoir un renouvellement. Oui, il doit y avoir quand même un changement d'homme, n'est-ce pas, pour le progrès.
Nous, nous sommes venus d'abord voir accueillir notre président démocratiquement élu avec des passations de pouvoir vraiment sans difficulté. Ça fait la joie. Depuis son investiture, la première fois de passer ici, on va l'accueillir avec tout bonheur, avec tout joie, sans difficulté. On va l'accompagner, l'aider avec tout. Comme le papa avait laissé un mot, le peuple d'abord avant toute chose.
Mais nous remercions le président de venir faire visite à son homologue, président Denis Sassou Nguesso.
Après la cérémonie officielle, Félix Tshisekedi, accompagné de son homologue Denis Sassou Nguesso, a pris un bain de foule sur quelques 300 mètres à la sortie de l'aéroport. Dans la soirée, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête sur divers sujets, mais dont la teneur n'a pas été révélée la nuit dernière. Un communiqué sanctionnant ces discussions sera publié avant le retour du président Tshisekedi avant midi à Kinshasa. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Togo, notre correspondante à Lomé, Kay Lawson, nous présente aujourd'hui un projet dénommé SAVA qui vise à aider et à protéger des enfants vulnérables. Son reportage.
Le projet SAVIN, baptisé SAVA, est un programme d'épargne sécurisé en faveur des enfants migrants et ou en situation de rue. SAVA a pour objectif premier de permettre aux enfants travaillant au grand marché de Lomé ou sur les frontières d'avoir accès à des microservices financiers. Des enfants souvent victimes de vols, comme le témoigne Luc, un enfant travailleur.
Si tu as déposé l'argent dans la poste, si tu dors là, le grand fini pour enlever ça pour partir. Mais si tu l'as trouvé, tu dis que tu vas prendre ça, il va te frapper. Alors moi, je suis content que le projet SAVA, c'est un bon projet. Que ce projet va nous garder notre argent. Nous, l'argent ne peut pas payer encore.
Pour les concepteurs du projet, l'idée est d'abord de mettre les enfants à l'abri des cas de violence et ensuite leur permettre de préparer leur avenir en faisant de petites épargnes. Anne Wengers, conseillère programme de lutte contre l'exploitation des enfants à Terre des Hommes Suisse.
Grâce au projet SAVA, les enfants pourront épargner leur argent et on espère que grâce à ça, ils seront en meilleure sûreté physique, ils ne seront plus volés chaque nuit, on n'aura plus recours à la violence contre eux. Ils seront aussi autonomisés parce qu'ils pourront, grâce à l'argent qu'ils auront épargné petit à petit, sortir du cycle de pauvreté, c'est-à-dire soit rentrer chez eux, retourner à l'école ou développer un projet de vie de long terme ou développer des petits commerces grâce aux petites économies qu'ils auront pu mettre de côté.
Pour mieux accompagner ces enfants, il est prévu un espace d'accueil dénommé Point Espoir. Yao Etche, chef bureau pays Terre des Hommes, Togo.
Le point espoir est en place avec des agents collecteurs, des sous-agents collecteurs qui puissent apporter une réponse aux besoins de ces enfants. C'est un espace d'accueil, un espace de recrutement d'enfants, un espace d'accompagnement d'enfants, mais surtout également un espace d'orientation des enfants. Les enfants, s'ils ne passent pas ce projet, la plupart abandonnent l'école. Donc il y a cette alternative également de pouvoir les alphabétiser. Donc il n'y a pas que la sécurisation de leur épargne.
Sont concernés par le projet SAVA des mineurs de plus de 15 ans, ceci en conformité avec le Code de l'enfant du Togo, qui stipule que les enfants de moins de 15 ans doivent être à l'école. Notons que SAVA est mis en œuvre sur le corridor Abidjan-Lagos en collaboration avec une institution bancaire sur place. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Mali, poursuite des activités à la 15e édition du Festival sur le Niger et Ségou Art 2 avec les expositions d'œuvres d'art. Le week-end sera marqué par les prestations d'artistes connus. Mais revenons sur une semaine marquée par la foire internationale du festival avec des artisans et artisanes venus du Niger, du Sénégal, du Burkina Faso et de la Mauritanie. Notre correspondant Kassim Traoré est sur place à Ségou.
Cette année, grâce à Ségou Art, la 15e édition du Festival sur le Niger a été dominée par plusieurs expositions d'art, avec une exposition internationale, le tout sous le signe de Ségou Yélé. Mahmoud Dafé, directeur du Festival sur le Niger et Ségou Art 2.
Ségou Yélé, c'est l'art de faire de l'art avec la lumière. Nous sommes en partenariat avec le programme Interférence de la Tunisie sur ce projet de lumière depuis 2 ans. Et c'est les premiers résultats qu'on a et nous avons créé une équipe de jeunes professionnels sortant du conservatoire qui sont en train de se former à cette nouvelle technique. Ségou, dans l'histoire du Mali et de l'Afrique, a toujours été une ville de lumière.
Des bordures de la lagune Ébrié, aux berges du fleuve Niger, il n'y a qu'une toile à tisser. Valérie Oka de la Côte d'Ivoire a pu le faire. Elle est venue à Ségou avec son exposition Les Pères de l'indépendance africaine.
Parmi les pères fondateurs, il y en a pas mal qui sont devenus des dictateurs. Mais là, ce n'est pas la discussion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout leur message au moment des indépendances, où ils prenaient une Afrique forte, unie, indépendante économiquement, indépendante même mentalement, psychologiquement.
Art et musique font bon ménage à Ségou. En tout cas, le festival sur le Niger Ségou Art 2 est bien apprécié par le critique d'art camerounais Simon Djamé.
Je pense que c'est une excellente initiative dans le sens où elle mélange les arts vivants, les arts du spectacle avec les arts dits plastiques. Je pense que les plasticiens, que les mélanger avec des musiciens, c'est leur permet d'abord d'avoir une audience plus grande. Ce que Ségou Art fait, c'est qu'ils accordent une place particulière à la jeunesse. Et il y a également de l'autre côté les anciens, ce qui permet d'établir un dialogue entre les jeunes générations et les anciennes générations. Et puis la dernière chose, c'est qu'il y a une mini-Afrique ici, ce qui est toujours intéressant.
À la foire internationale de Ségou, Nana Balkissa du Niger est venue avec les produits, les plantes, mais aussi pour donner des conseils sur la vie conjugale.
Si on dit foire internationale, donc on change les encens. Chacun a son goût de l'odeur. Il y a les secrets des femmes, il y a les secrets des hommes. Donc avec les cancancans, c'est naturel. Nous, on est pour les femmes, parce que c'est les femmes qui ont toujours dans les problèmes.
Des transformatrices maliennes au Faso d'Anfani du Burkina Faso, en passant par les Guinéennes et les Rouacs, sans oublier la Mauritanie, tout y passe à la foire de Ségou.
Depuis que je suis venu là, c'est mon argent que je suis venu avec, que j'ai mangé jusqu'à maintenant. On n'a pas acheté, puisque les gens disent que c'est cher, les gens disent qu'il n'y a pas l'argent, les gens disent qu'on va revenir.
Il n'y a pas eu de marché, le concert est parti loin. Quelqu'un qui trouve un produit à 200 francs, à 500, ne va pas acheter un artisan qui s'assoit pour toute la journée pour faire fabriquer un article.
Vraiment, en tout cas, cette année-là, ça a bien marché, ça a marché même plus l'année passée. Cette année-là, en tout cas, on remercie Dieu.
Les organisateurs aussi remercient Dieu, car la sécurité a été à la hauteur avec la participation de la force spéciale de l'armée malienne. Et le week-end sera marqué par les prestations des artistes comme Amadou et Mariam, la crème du hip-hop malien, avec comme tête d'affiche Master Soumine. Ségou, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la transmission du VIH-Sida par la voie sanguine.
Un peu moins connu du public que la voie sexuelle, la transmission sanguine du VIH est l'un des premiers modes de contamination chez les usagers de drogues injectables et les personnes qui partagent en commun les objets tranchants.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Arsène Kalenga, médecin en RDC. Il nous dira comment réduire les risques de transmission du virus par le sang.
Nous écouterons le témoignage de John Matemouli, propriétaire d'un salon de coiffure. Nous écouterons aussi le secrétaire exécutif du programme de lutte contre le sida en RDC.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Depuis VOA Afrique en direct de Washington, voilà c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.